Concertina.
Donc, je vous présente les deux intervenants de notre controverse de cet après-midi. Valérie Icard. Alors, Valérie, vous êtes docteur en sciences politiques et vous venez de terminer une thèse sur... Alors, dites-nous le sujet de votre thèse.
Sur le maintien de l'ordre en France et en Espagne, les prisons.
Dans les prisons. Donc, Valérie vient de terminer une thèse sur le maintien de l'ordre. Elle est chercheuse. Elle nous parlera tout à l'heure à la fois de sa thèse et de sa méthode de recherche. Elle nous dira aussi quelles conclusions elle a tirées de ses observations et de son travail. Et puis, Paul Louchouard, vous êtes directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes. Merci infiniment de votre présence. Vous êtes aussi magistrat. Et donc, vous avez une vision sur ces questions qui est plus large et qui va au-delà de simplement la gestion des établissements pénitentiaires. L'objet qui va nous servir d'analyseur pour cet après-midi, c'est ce que l'on appelle, alors nous avons eu du mal d'ailleurs à stabiliser le vocabulaire, le dispositif, le module respect. Alors ce module respect qui date d'il y a 6 ou 7 ans a été mis en place dans un certain nombre d'établissements pénitentiaires français. Ce module respect a été très largement inspiré par des pratiques qui existent dans les prisons espagnoles. Et avant d'engager le débat sur le fond, je vais demander à Paul Louchouard, et puis cela sera complété par Valérie Icard tout à l'heure, de nous présenter le principe du module respect et la manière dont ça fonctionne. En particulier dans le cas très spécifique de la prison de Rion, où ce module respect est mis en place en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors Paul Louchouard, ce module respect, 6-7 ans, d'où ça vient et quelle année à la fois le principe et quelles en sont les modalités de fonctionnement?
Voilà, en deux mots, parce que je ne sais pas quel est le niveau de connaissance dans le public du fonctionnement des établissements pénitentiaires et des régimes de détention. En tout cas, le centre pénitentiaire de Rion, qui est dans le Puy-de-Dôme, a ouvert en 2016. C'est un établissement de réinsertion active, c'est le terme employé, et il y a au sein de ce bâtiment, au sein de cet établissement, un bâtiment qui est un quartier maison d'arrêt, de 144 cellules qui fonctionnent sur le principe du module respect et qui a fonctionné dès l'ouverture de l'établissement sur ce principe. Alors, qu'est-ce que ça change, me direz-vous, par rapport à un fonctionnement d'établissement classique? Le fonctionnement d'une maison d'arrêt classique, c'est l'encellulement individuel, quand c'est possible, bien entendu, c'est rarement le cas, et c'est une prise en charge très individuelle dans une relation entre la personne détenue et le surveillant d'étage, une relation asymétrique pour des tas de raisons sur lesquelles je reviendrai si ça vous intéresse, et qui laisse très peu d'autonomie, en tout cas, d'une manière générale, aux personnes détenues. Les mouvements sont bien évidemment organisés en fonction de certaines heures pour aller à la promenade, pour aller à l'unité sanitaire, pour aller à l'enseignement, pour aller au travail, pour aller au sport. Et tous ces mouvements sont gérés par le surveillant d'étage qui a les clés de la porte, et la personne détenue est complètement dépendante de l'action du surveillant pour avoir accès à toutes les activités qui sont organisées au sein de l'établissement. Dans un module respect, les choses sont un peu différentes en ce sens que la personne détenue a plus d'autonomie spatiale, elle a les clés de la cellule, elle circule librement dans un espace architectural. Et l'évolution sensible également, c'est qu'il y a plus de prise en charge collective des personnes détenues. Il y a déjà une dynamique collective entre elles, mais il y a aussi une participation des agents et une interface avec un collectif de personnes détenues, et non pas une relation duale, systématique, entre le surveillant et une seule personne détenue, ou deux maximum. Donc ça change un petit peu le mode de fonctionnement. Les objectifs sont les mêmes, j'ai envie de dire, que l'objectif général qu'on peut avoir au sein des établissements pénitentiaires, dont le premier d'entre eux, s'agissant d'une communauté humaine en nombre, c'est d'éviter les comportements auto- ou hétéro-agressifs au sein des unités d'hébergement. Essayer de préparer les aménagements de peine et en tout cas donner du sens au temps passé en établissement pénitentiaire. Améliorer dans la mesure du possible les conditions de vie des personnes hébergées. Et puis le dernier objectif, qui n'est pas tout à fait neutre non plus, c'est de faire évoluer le métier du surveillant et son positionnement, et de limiter en tout cas les risques psychosociaux qui sont liés à l'ambiance qu'on peut connaître dans une majorité des établissements pénitentiaires. Les personnes détenues qui intègrent ce module respect le font volontairement, c'est-à-dire qu'elles sont candidates, on n'oblige personne à intégrer ce type de module. Et quand elles intègrent ce programme, elles s'engagent à respecter les règles de vie en communauté, à participer à des activités, c'est-à-dire qu'on essaie d'éviter l'oisiveté en cellule, qui est le cas dans beaucoup d'établissements, et de participer à un certain nombre de commissions qui sont tout à fait spécifiques au module respect, et également de participer collectivement à la vie du bâtiment, et de proposer des activités ou de participer à des activités ou d'échanger en tout cas régulièrement sur le contenu des activités. Donc il y a un certain nombre de leviers, comme toute vie en collectivité. Il y a des commissions de régulation où le comportement des personnes détenues est évalué très régulièrement, où ils ont un retour sur ce qu'on attend d'eux, sur la manière dont ils ont satisfait aux attentes par rapport à la période précédente. Il y a un fonctionnement de permis à points pour ceux qui ont des enfants scolarisés, ils voient bien de quoi il s'agit. Il y a un capital de 5 points, en tout cas au tout début, pour mettre à l'épreuve un peu la personne détenue dans sa capacité à respecter les règles de vie en communauté. Et si ça se passe bien très rapidement, elle passe à un capital de 10 points. Et voilà, elle est vue si jamais, à un moment ou à un autre, son comportement provoque des retraits de points au cours de la commission de régulation. Et chaque personne détenue affectée intègre un comité dit de régime autonome pour participer à la vie en communauté et à la gestion quotidienne de la détention. Donc c'est ce qui distingue vraiment ce régime d'un régime habituel où on demande assez peu, pour ne pas dire pas du tout, aux personnes détenues ce qu'elles pensent du régime de détention et la manière dont elles aimeraient le voir évoluer, ou alors juste à la marge, hein, de façon assez, assez symbolique. Et ils peuvent être nommés référents par étage sur une thématique donnée et s'investir. Et à Rion, par exemple, il y a eu des actions intéressantes qui ont été menées en termes notamment de collecte de produits et de denrées. Il y a plusieurs tonnes de produits qui ont été collectées au sein de l'établissement et qui ont été transmises au restaurant du cœur, par exemple. Ils ont aussi installé un poulailler à l'intérieur de l'établissement et 9 dixièmes quasiment des œufs pondus sont remis au restaurant du cœur également. Voilà le type d'actions qui peuvent s'organiser. Et en ce sens, c'est un régime assez novateur. En dehors de Rion, il y a un ou deux secteurs d'établissements, d'autres établissements de l'interrégion qui se sont lancés un peu dans l'aventure, mais pas à cette échelle-là. Et pas avec cette capacité sur un bâtiment entier, effectivement, de mener des actions assez ambitieuses. Voilà, je n'irai pas beaucoup plus loin sur l'explication du fonctionnement et des principes de fonctionnement. On pourra répondre à des questions, mais je pense qu'on approfondira au cours de l'échange de toute façon.
Quand vous dites un bâtiment entier à Rion, ça représente combien de personnes ?
Donc 148 personnes hébergées. Au cours de l'année 2022, il y a 278 personnes qui ont intégré le régime qu'on respecte.
Est-ce que vous diriez que c'est un régime contractuel, un engagement réciproque ?
Oui, c'est une question intéressante parce que je parlais des engagements des personnes détenues, mais les agents sont volontaires aussi, on n'oblige aucun agent. Il y a 30 agents qui fonctionnent dans ce bâtiment et eux aussi, en fait, ils s'engagent à reconsidérer leur méthode de travail, leur mode d'action, ce qu'ils ont pu connaître jusqu'à maintenant, et à entrer dans une relation un peu différente aux personnes détenues, et notamment participer quelquefois à des activités collectives avec les personnes détenues. Alors c'est relativement banal dans des établissements comme les quartiers mineurs ou les établissements pour mineurs, mais c'est beaucoup moins fréquent dans les bâtiments pour adultes, un petit peu dans les établissements pour peine, mais beaucoup plus rarement en maison d'arrêt. Donc en ce sens, c'est une singularité.
Et est-ce que le fait de participer à un module respect, ça va contribuer à une réduction de peine, par exemple ? Ça va être quelque chose...
Alors, il n'y a pas un régime dérogatoire. Hein. Le régime, c'est le régime du code de procédure pénale ou du code pénitentiaire. En revanche, par la force des choses, étant donné le très faible nombre d'incidents que connaît le fonctionnement du bâtiment, ceux qui adhèrent au dispositif et qui le respectent ont quasiment la quasi-certitude d'obtenir l'ensemble et l'intégralité des remises de peine.
Ok, merci beaucoup. Donc Valérie, vous avez travaillé sur ce module respect, vous avez regardé ce qui se passait à la fois en Espagne et en France. Alors peut-être avant d'en venir à votre recherche, des précisions factuelles. Vous êtes d'accord sur la description que vient de faire Paul Louchoir? Vous
oui.
avez envie d'apporter des précisions?
Peut-être juste préciser sur le nombre de modules de respect, l'ampleur qu'a pris cette expérimentation qui est aujourd'hui présente dans tous les établissements pénitentiaires espagnols et qui concerne à peu près 40% de la population incarcérée en Espagne. Et en France, les derniers chiffres que j'avais trouvés, on compte à peu près 45 établissements sur les 168, je crois. 45 établissements pénitentiaires qui comptent un module de respect. Après, avec toutes les nuances qu'il faut apporter à ce que l'on met derrière module de respect, avec des appropriations, et on pourra en discuter au cours de l'échange, des appropriations très différenciées selon les directions d'établissement, selon les pratiques professionnelles des agents, etc. Mais c'est important de voir l'ampleur du phénomène et de la
Donc,
population.
Ce qui veut dire, Paul Louchoir, que le module respect, c'est une orientation, ce n'est pas une procédure stabilisée dont la mécanique est universalisable dans toutes les prisons.
Alors, rien n'est jamais transposable d'un établissement à l'autre, en tout cas pas complètement. Après, on peut essayer de modéliser et essayer de faire en sorte que les autres établissements s'en inspire. En tout cas, moi, ce serait mon souhait, parce que je trouve, on en débattra tout à l'heure, que c'est une évolution qui, pour moi, va dans le bon sens. Si on me disait demain, l'ensemble des établissements pénitentiaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes se lanceront, en tout cas, sur une partie de leur hébergement dans le régime respect, je signe dès demain, tout de suite.
Mais vous dites, si on vous disait, qui devrait vous le dire ?
Ah non, mais si on me dit, si vous me le disiez par exemple, si on me dit, en l'horizon 2025, tous les établissements fonctionneront sur ce régime-là.
Il faudrait que ce soit une décision ministérielle
D'où
viendrait la décision ?
Il peut toujours y avoir une décision à un moment donné.
Ça ne peut pas être votre décision.
Si, je peux l'inciter, on peut le développer, on peut le faire reconnaître, on peut toujours expérimenter, il faut que ça marche. Si l'expérimentation fonctionne, plus personne ne peut vous dire que ce n'est pas une bonne idée. En revanche, il ne faut pas se casser la figure, évidemment, mais personne ne m'empêchera de le faire. Il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là.
Ok, alors Valérie, voilà pour la présentation de ce module. Vous, votre enquête, comment vous avez procédé et qu'est-ce que vous avez observé ?
Ok. Donc, c'est une enquête qui est issue de ma thèse et qui a porté sur 4 établissements pénitentiaires, 2 en Espagne et 2 en France. Ce sont des enquêtes qui ont été menées sur une longue durée. En Espagne, je suis restée à peu près 5-6 semaines sur chaque établissement. Et en France, 5 semaines dans un établissement qui avait expérimenté les modules de respect. Et l'essentiel de mon travail consistait à mener des observations de la détention avec les surveillants, avec les détenus, et à mener des entretiens avec les différents personnels pénitentiaires et avec les personnes incarcérées. Donc j'ai été amenée par la force des choses en travaillant sur l'Espagne à travailler sur les modules de respect qui ont une place assez importante. Et j'ai pensé que la thématique pouvait être intéressante pour ces rencontres sur la notion de silence parce que j'ai observé à travers ce régime de détention novateur qui se veut plus libéral de nouveaux mécanismes disciplinaires qui reconfigurent les formes de gouvernement des conduites et les modalités de gestion de la détention au quotidien. Donc je vais développer rapidement les 3 points qui me semblent centraux à propos des modules de respect. Tout d'abord, il faut savoir n'entre pas qui veut finalement dans les modules de respect, parce que certes les détenus doivent être volontaires, mais il y a aussi tout un processus de sélection de l'administration pénitentiaire qui est formalisé par une lettre de motivation en France, et avec tous les biais que cela peut comporter, puisque pas tout le monde ne peut s'exprimer dans les termes qui sont attendus par l'institution, et avoir des présentations de soi qui rentrent dans les cadres attendus. Donc il y a déjà un processus sélectif qui est en jeu.
Donc ça, c'est le premier aspect que...
C'est un des premiers aspects...
La première chose qui vous gêne.
Qui peut amener à des problèmes, puisque par cette sélection... s'opèrent des catégorisations. En fait, j'ai pu observer des catégorisations des personnes détenues en fonction justement de leur profil. On va considérer que les personnes qui sont tranquilles, propres sur elles, qui s'expriment bien, etc., ont leur place dans leur module de respect, tandis que les personnes qui sont considérées comme indisciplinées, qui ne respectent pas les codes en prison ou le règlement, sont mises hors jeu. Directement. Donc, dès le départ, ça peut créer des processus de catégorisation qui ne sont pas sans conséquence après sur les représentations des personnes détenues selon le bâtiment, selon le régime de détention dans lequel elles sont incarcérées.
Donc, il y a une sorte de détention à deux vitesses avec une forme de sélection, voire d'exclusion d'un certain nombre de gens en fonction de leur représentation, de leur passé, de la manière dont ils sont perçus par l'administration pénitentiaire, c'est
exactement.
Ça ?
Exactement.
Alors ça, c'est le premier aspect. Ouais. Vous aviez deux autres aspects à évoquer.
Le second aspect, c'est sur la place du personnel de surveillance. Je rejoins Paul Louchouard sur la nécessité pour le personnel de surveillance d'investir plus le relationnel avec les personnes détenues et d'être plus dans la communication avec les personnes incarcérées. Mais il ne faut pas oublier que dans ces modules de respect, également, les personnels de surveillance ont investi d'un nouveau pouvoir de sanction du fait de ce supplément réglementaire qui existe au sein de ce régime de détention, ce qui leur offre un nouveau pouvoir de sanction et qui peut donner lieu à des...
Et expliquez pourquoi ils ont plus de pouvoir de sanction là qu'ailleurs.
En fait, il y a un règlement intérieur au sein de ces modules de respect, d'autres règles qui se superposent au règlement intérieur de la prison en général. Par exemple, on n'a pas le droit de porter tel type de vêtements, on doit être levé à telle heure le matin, ranger sa cellule, etc.
Mais ces règles sont édictées par qui ?
Elles sont éditées par la direction et le personnel de surveillance est en charge du contrôle de ces règles.
Mais j'ai cru comprendre que les détenus étaient associés à la réflexion sur ces règles.
Non. Quoi, pas dans les modules de respect tels que je les ai observés en Espagne ni en France.
D'accord.
Mais peut-être que M. Louchard me contredira.
Donc ça, c'est le deuxième aspect.
Oui, donc il ne faut pas oublier qu'il y a ce pouvoir de sanction supplémentaire et qui joue sur la relation entre personnes détenues et...
Et de sanctions qui seraient plus discrétionnaires parce que moins...
Avec une application discrétionnaire, comme on le voit au quotidien, en fait, dans les prisons, le surveillant ne veut pas faire respecter toutes les règles, ou en tout cas le règlement et le contrôle du règlement intérieur... se joue aussi en face en face par des négociations informelles.
D'accord.
Donc ça donne un nouveau aspect punitif et sans
Alors,
doute.
Et le troisième point que vous avez relevé et qui vous paraît préoccupant ?
Et le troisième point, c'est qu'on offre certains privilèges formels aux détenus dans ces modules de respect, justement du fait de ce contrat d'engagement. Mais il y a également des privilèges que je qualifie d'informels et qui découle des représentations positives accolées à ces personnes détenues qui intègrent les modules de respect. Et par le jeu de ces privilèges formels et informels, s'instaure en fait une gestion différenciée de la population incarcérée au sein d'un établissement, ce qui n'est pas sans poser de questions, puisque il faut se demander à quel moment et comment on peut accéder à un module de respect. le discours institutionnel met l'accent sur la volonté, sur l'implication dans le projet de réinsertion, etc. Mais il me semble que ce qui est en jeu, c'est pas la volonté, c'est aussi les ressources socio-économiques, les socio-culturelles plutôt, qui permettent de répondre aux attendus institutionnels. Et donc, on met à l'écart et on marginalise une certaine part de la population carcérale via l'instauration de ce régime de détention au sein des établissements.
Donc, au total, vous estimez que la mise en place de ce type de module, en soi, pas simplement dans les modalités, mais en soi, crée au sein des établissements pénitentiaires à la fois une sélection, des privilèges, des sanctions supplémentaires et moins identifiées et plus arbitraires, et que à ce titre, alors je dis pas vous condamnez la mise en place de ces modules, mais à ce titre vous considérez que ça ne représente pas une avancée.
Il me semble que ça représente une avancée pour ceux qui en bénéficient peut-être les conditions de détention améliorées, tout simplement, et notamment en maison d'arrêt. C'est vrai que toutes les personnes détenues que j'ai pu interroger mettaient en avant la liberté de circulation qui est énorme. En centre de détention, la question est autre, parce que les portes sont étaient ouvertes jusqu'à présent. Après, le problème, c'est la prise en charge globale que ça implique pour l'ensemble de la population enfermée et le paradigme que ça sous-tend en termes de possibilités offertes aux personnes détenues en fonction de leurs ressources socioculturelles.
Si je résume, vous pensez qu'on n'améliorera pas la prison en donnant un régime privilégié aux bons prisonniers ?
Non, je ne pense pas que ça soit la solution. Oui.
Voilà, c'est un peu ça la thèse que vous défendez. Ouais. Donc on va reprendre ça avec Paul Louchouin, si vous voulez bien. Donc sur ces trois, alors je ne vais pas dire accusation, on va dire plutôt reproche ou inquiétude. Trois inquiétudes, la sélection, le rôle des surveillants et les sanctions arbitraires que cela peut amener, et puis les privilèges au fond, le paradigme d'une prison qui se donnerait bonne conscience en donnant à quelques personnes un peu plus favorisées des conditions de détention meilleures sans que cela bénéficie à tout le monde. Vous avez la parole.
Alors, sur le premier point, alors il y a au moins un sujet sur lequel je ne rejoins absolument pas Valérie Icard, c'est celui de la différenciation des prises en charge. Pour la bonne et simple raison que, bon, déjà, l'administration pénitentiaire applique les textes et applique le code. Et le code nous dit que les personnes sont réparties dans les établissements en fonction de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité, et leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Donc déjà, les textes du code nous invitent à le faire. Et surtout, d'un point de vue pragmatique, rien ne m'a jamais autant désespéré depuis 33 ans que j'évolue dans cette administration, moins 6 ans de mise à l'écart, c'est que toutes les personnes détenues, quelle que soit leur histoire, quel que soit leur profil, quel que soit leur parcours pénal, soient traitées de la même manière. Il n'y a rien de plus désespérant. Et surtout, lorsqu'on organise l'ensemble du fonctionnement de l'établissement, par rapport à la personne détenue la plus dangereuse qu'on a au sein de l'établissement. Est-ce qu'on est obligé d'imposer un régime de sécurité extrêmement strict à une personne qui est là pour un délit routier, de la même manière qu'un prédateur sexuel extrêmement dangereux ? On a le droit de se poser la question. Au-delà de ça, et cette différenciation, à mon grand plaisir d'ailleurs, c'est vraiment développé ces dernières années, dans le sens à la fois d'un allègement de la prise en charge. On parle aujourd'hui beaucoup du module respect, mais nous allons avoir à côté de Valence un nouveau type d'établissement qui va ouvrir de 130 places, une structure d'accompagnement vers la sortie, une SAS, où la prise en charge sera vraiment orientée vers la préparation à la sortie des personnes détenues avec un niveau de sécurité quasiment nul. Bon. Et ça va dans le bon sens. Inversement, Nous avons aussi créé des quartiers d'évaluation et de quartiers de prise en charge pour les détenus radicalisés. Nous avons ouvert à Lyon-Corbat une unité pour les détenus violents, particulièrement violents. Donc on a différencié la prise en charge et c'est quelque chose qui, pour ma part en tout cas, je considère va dans le bon sens. Je vais vous donner qu'un exemple, hein. Je vais essayer d'être le moins long possible. Mais on peut considérer, par exemple, dans la prise en charge des auteurs d'infractions à caractère sexuel, qu'on peut les mélanger avec tout le reste du public au sein des établissements pénitentiaires et que tout va bien se passer. Il y a des collègues d'ailleurs qui considèrent qu'il n'y a pas de problème et que le mélange des populations est un succès. Sauf que, pour ma part, lorsque je m'étais un peu intéressé de près au problème, je me suis rendu compte que des personnes qui étaient là pour des faits de nature sexuelle n'allaient plus aux activités, n'allaient plus en sport, ne descendaient plus en promenade, et pour certains nombres d'entre elles d'ailleurs, n'allaient même plus au parloir, c'est-à-dire qu'ils avaient demandé à leur famille de ne plus venir au parloir pour ne pas se retrouver dans les salles d'attente avec les autres détenus au risque de subir des violences. Donc, on a pu faire le choix, effectivement, de les séparer du reste de la population pénale et d'ouvrir des étages dédiés aux auteurs d'infractions à caractère sexuel. Alors, là aussi, on pourrait avoir un long débat, ghettoisation, prise en charge différenciée, mais en tout cas, je trouve que la pire des choses, c'est de faire comme si toutes les personnes détenues étaient exactement les mêmes et qu'on pouvait toutes les prendre en charge de la même façon. Ça me paraît important de le dire. Le second point, c'est que, alors ça rejoint le troisième, sur la prise en charge, le régime et le module respect est un module exigeant pour les personnes qui les intègrent. D'ailleurs, celles qui refusent, bien souvent, elles refusent parce que ça les met à l'épreuve. C'est un régime qui peut être éprouvant. On rejoint le sens de la peine, et ça, on pourrait vraiment se lancer dans un très très long débat. J'ai tendance à considérer qu'on a trop fait reposer la réflexion sur le sens de la peine et le régime de détention sur le respect du droit. Alors vous allez me dire, c'est important le respect du droit, je ne dis pas le contraire. Mais en gros, le détenu a le droit, il n'a pas le droit, il a le droit, il n'a pas le droit, il a le droit, il n'a pas le droit. Mais le sens de la peine, la question de l'investissement de la personne détenue sur ce temps de peine, sur sa capacité à faire évoluer son comportement de manière utile pour préparer sa sortie et éviter de se retrouver dans la même situation dans laquelle il s'est trouvé avant de venir en prison. C'est aussi un enjeu majeur qui est porté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et par toute la communauté du personnel pénitentiaire. Si on laisse la personne détenue dans son lit à regarder la télé, c'est sûr, c'est pas compliqué, hein. Il ne va pas être tellement mis à l'épreuve et ça ne va pas être compliqué pour lui. En revanche, quand on lui demande de modifier son comportement, de respecter les règles de vie en communauté, de respecter les autres personnes détenues, d'avoir une relation correcte avec le personnel de surveillance, on lui demande de faire des efforts. Et ce n'est pas si évident que ça. Sur le deuxième aspect qui est l'implication des personnels et le pouvoir disciplinaire, alors, c'est une question très intéressante sur laquelle il faut effectivement être vigilant parce que à partir du moment où on donne une once d'autorité à quelqu'un, on a toujours le risque qu'elle en abuse d'une façon ou d'une autre. Donc il faut être extrêmement vigilant, mais on s'aperçoit que les agents sont extrêmement prudents bien souvent dans l'exercice de ces prérogatives qu'on peut leur donner. Ça peut consister par exemple effectivement à sanctionner le comportement d'une personne détenue. Ça peut consister à faire une fouille d'initiative personnelle, mais on s'aperçoit, alors même qu'on a donné la capacité aux agents de le faire, qu'ils ne le font pas tant que ça, et qu'ils sont assez contents que ce soit un gradé au-dessus d'eux qui donne les consignes pour faire une fouille, ou qui donne des consignes pour savoir quelle réponse on va apporter au comportement de la personne détenue. Mais c'est une implication qui est recherchée pour nous, parce que ça permet d'impliquer le personnel dans la vie de la structure et dans la relation à la personne détenue et de en quelque sorte de restaurer un lien d'autorité au niveau du surveillant parce que bien souvent ils se sentent complètement dépossédés, vous connaissez l'expression, on est des porte-clés, on est juste là pour ouvrir les portes, on sert à rien. Donc c'est une façon aussi de les impliquer et de les impliquer dans l'évolution de la personne détenue et quelquefois ça donne de bons résultats. Et ce contrôle, il s'impose en fait. Il ne faut absolument pas laisser les agents prendre des initiatives sans qu'une orientation soit validée à un moment donné par l'officier responsable du bâtiment et quelquefois en concertation. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur les deux ou trois points dans un premier, première réaction.
Merci beaucoup. Valérie, donc peut-être quand même, j'entends ce que vient de dire Paul Louchouard. Quelle cohérence il y aurait à caler le régime de détention sur ce qui est requis par le détenu le plus dangereux ? Et pourquoi ne pas faire bénéficier les autres d'une possibilité de progression, d'engagement ? Est-ce que quand même cette notion d'engagement n'est pas une notion à valoriser dans la perspective d'une réinsertion, dans la perspective d'une reconnaissance de la personne et de ce qu'elle peut porter et de l'effort qu'elle peut faire ?
Je crois que la question de la dangerosité, elle se pose pas pour l'affectation ou la non-affectation en module de respect. Alors certes, les détenus considérés, les DPS par exemple, particulièrement surveillés, ne sont pas admis dans ce type de régime. Mais la question, elle est avant tout sur est-ce qu'on peut répondre ou non aux attendus institutionnels en termes de comportement. Je peux donner un exemple issu de mes observations, mais une personne était décrite comme un profil parfaitement adapté. Je le retrouve. Parfaitement adapté, je cite, c'est un profil parfaitement adapté, 18 ans, première incarcération, visite des parents et des grands-parents, pas indigent, papa policier, grand-père gendarme, délit sexuel, jeune, bac pro, ok pour un suivi. Un deuxième exemple, propre sur lui, discipliné, calme et réfléchi, je pense que c'est un bon profil, il a la maîtrise des savoir-être. Donc on n'est pas sur une question de dangerosité. Est-ce que
on a bien compris ce que vous reprochez là.
Ce que je reproche avec l'instauration, ce que je considère comme problématique avec l'instauration de ces modules de respect, c'est tout l'à côté et toute la dégradation qui peut s'en suivre dans la détention classique. Et ça,
pour ceux qui n'y sont pas.
Oui. Ça, la mise en perspective des modules de respect en Espagne qui existent depuis 2001. Et que j'ai pu observer dans les établissements pénitentiaires espagnols, le montre de façon très flagrante, où il y avait les bons modules et les mauvais modules, et de facto, ça se répercutait sur la perception des personnes détenues, les bons détenus et les mauvais détenus. Et de fait, les mauvais détenus avaient beaucoup moins d'activité, une prise en charge professionnelle beaucoup moins investie, étaient moins classés au travail, etc. Donc il y a aussi tout un cercle vicieux d'une prise en charge moins...
Donc ce que vous reprochez à la différenciation, c'est pas le fait d'offrir dans le module respect des conditions particulières, plus contractuelles, avec des surveillants qui sont dans une relation plus individualisée. Ce que vous reprochez, c'est que ce serait un alibi, en quelque sorte, qui laisserait les détenus qui n'y participent pas dans des conditions terrible pour eux et en tout cas qui ne ferait pas l'objet d'amélioration.
Ben c'est l'un des reproches que je fais, oui, l'une des problématiques que je soulève à propos de ces...
Mais c'est important ce que vous nous dites là parce que ça veut dire que vous n'êtes pas hostile à ce module.
Et il y a d'autres problématiques que j'ai soulevées aussi. Après, c'est sur la manière dont on prend en charge et qu'est-ce qu'on entend par responsabilisation et tout ce jeu de privilèges.
Alors justement, responsabilisation, vous pensez que ce module contribue à la responsabilisation, à l'engagement des personnes ou pas ?
Me semble pas que ça soit par un système de points, et c'est reconnu par les acteurs professionnels également sur le terrain, par un système de points qui est vécu comme très infantilisant et parfois qui est vécu de manière un peu violente par les personnes détenues, qu'on participe à un processus de responsabilisation. Que ça offre de meilleures conditions de détention, et je reviens sur la liberté de circulation qui est l'avantage principal, c'est évident, mais qu'on auréole ce dispositif de responsabilisation, pour l'instant, c'est pas ce que j'ai observé ni en Espagne ni en France. On est sur une logique...
De privilège et pas de responsabilisation, c'est ça ce que vous voulez dire ?
Oui.
J'essaye de comprendre et je donne la parole à Paul Louchouard sur cette question-là.
La responsabilisation, elle est notamment promues par les commissions de détenus, etc., qui fonctionnent assez peu en France de ce que j'avais pu observer. En Espagne, c'est différent, mais je laisse la parole peut-être à M. Mouchoir sur les commissions de détenus en France.
Sur cette question de l'engagement, de la responsabilisation, notre collègue Valérie n'est pas convaincue.
Oui, alors je suis prêt à entendre effectivement que l'accès d'un certain nombre de personnes détenues à ces régimes-là met encore plus en évidence la situation de ceux qui n'y ont pas accès.
Absolument.
Bon. Est-ce que c'est une raison pour autant pour ne pas le faire ? Vous avez compris que je ne suis pas de cet avis-là. Parce que je suis beaucoup plus préoccupé par la situation globale des maisons d'arrêt et des personnes détenues qui sont hébergées en maisons d'arrêt. Et j'aimerais rappeler quand même d'où on vient. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on accueille des personnes qui n'ont absolument pas envie d'être là. Hein. Donc on est dans un système extrêmement coercitif. La privation de liberté, je pense qu'il y a plus grand monde aujourd'hui, et moi le premier, alors que j'ai quand même évolué en établissement pénitentiaire pendant des années, mais c'est pas parce que j'ai évolué dans un établissement pénitentiaire que je comprends ce que c'est que la privation de liberté. Je pense que le grand public notamment n'a aucune idée de ce que c'est que la privation de liberté. En soi, c'est déjà quelque chose d'extrêmement violent. Et on a une relation qui s'établit de façon parfaitement asymétrique, comme je le disais tout à l'heure. Le pouvoir des personnels de surveillance, il est quand même exorbitant. Moi, quand j'ai des gens qui me disent « Ah, mais garde-moi une cellule, je vais passer 8 jours chez toi, je vais être tranquille, je pourrai regarder la télé dans ma cellule, j'aurai pas ma femme sur le dos du matin au soir », je dis « Très bien, je vais t'enfermer dans la cellule, mais je vais commencer par pas te dire combien de temps tu vas y rester. » Et ça change tout déjà. Et secondo, je peux rentrer dans ta cellule quand je veux, je peux fouiller tes affaires, je peux lire ton courrier, et puis je peux te déshabiller entièrement et te fouiller aussi souvent que je veux. Donc on voit bien quand même que le régime de vie en établissement pénitentiaire est quand même extrêmement difficile, extrêmement compliqué, et accentué encore par la masse des personnes détenues qu'on a en charge et le peu de disponibilité pour les agents vis-à-vis de chacune d'entre elles. Donc pour moi, tout ce qui va vers quelque chose qui est plus ouvert, plus participatif, où la parole de la personne détenue est plus entendue, puisque à Rion, il y a 7 réunions de ces comités. Tout le premier mardi du mois, il y a une réunion qui dure 2 heures où les personnes détenues peuvent s'exprimer, échanger. Ça va dans le bon sens. Parce que bon, le thème de la réunion, c'est le silence, mais quelquefois, je me demande, qu'est-ce qui est le pire en fait ? Est-ce que c'est le silence ? Ou est-ce que c'est que sa parole ne soit pas entendue ? Et bien souvent, du côté des personnes détenues, dans le fonctionnement des maisons d'arrêt, la difficulté, c'est celle-là, en fait. C'est que la parole de la personne détenue n'est pas entendue. Même si on a progressé ces dernières années, il y a beaucoup plus de respect de la parole de la personne détenue dans la procédure disciplinaire, notamment au cours de la commission de discipline. Elle est entendue dans le cadre de l'application des peines et des aménagements de peine au cours des débats contradictoires, assistée par un avocat, comme en commission de discipline. Donc il y a eu des progrès considérables, mais on est encore très loin d'un échange quasiment d'égal à égal avec l'administration pénitentiaire sur des modalités de fonctionnement de l'établissement. Alors on n'y est pas encore non plus dans le module respect. Je ne dis pas qu'on y est arrivé, mais on s'en rapproche. Et tout ce qu'on peut faire pour essayer de s'en approcher, en tout cas pour moi, va dans le bon sens.
Merci. Valérie, vous pouvez évidemment réintervenir. Et puis on va demander s'il y a des gens dans la salle, enfin dans la salle, dans ce qui n'est pas une salle, sur la pelouse, qui ont envie d'intervenir et de prendre la parole par rapport à ce qui vient d'être dit, Valérie.
Durant mon enquête, moi, ces commissions fonctionnaient assez mal. Elles étaient en présence d'un surveillant en permanence. Donc, des témoignages que j'ai recueillis des personnes détenues, on était plus sur un simulacre de participation collective et d'expression collective par rapport à l'article 29, je crois, de la loi pénitentiaire. Et c'était très clairement la chose qui avait été la moins investie par la direction d'établissement. Il disait effectivement sur ça, on doit vraiment s'améliorer. Donc j'ai assez peu à dire parce que ça avait été très très peu investi. C'était quelque chose qui était assez mineur dans le fonctionnement du module de respect.
Et par rapport à ce que disait Paul Louchouarn sur le caractère de formateur pour les surveillants eux-mêmes,
oui.
de ce module respect. Alors, vous êtes d'accord là-dessus?
Ça, je le rejoins tout à fait, oui. Il y avait, je trouve qu'il y avait une très grande réussite et beaucoup de parallèles à faire. En fait, je voyais un processus de responsabilisation du personnel de surveillance dans ces modules de respect où, très clairement, il y avait un réinvestissement du métier et des pratiques professionnelles. Et sur ça, je le rejoins absolument.
Donc, il y aurait une espèce de passage du pouvoir à l'autorité, là, du pouvoir de la clé à une véritable autorité qui soit une autorité, si ce n'est consentie, parce que
en tout cas,
ça ne sera jamais consenti, en tout cas.
Un réinvestissement de la part du personnel dans son métier et plus de plaisir à exercer.
Parce que c'est quand même important que le personnel de surveillance, que les surveillants ne soient pas en position d'être simplement des exécutants et que le bien-être des détenus est sans doute aussi lié à la posture professionnelle des surveillants qui se vivent comme partie prenante d'une entreprise, d'un engagement collectif et pas simplement exécutant, non ?
Après, ça pose toute la question de la relation personnelle détenue et de toute la symétrie aussi que ça creuse avec ce nouveau pouvoir de sanction. Mais après, effectivement, je pense que les modules de respect en France ont été beaucoup pensés pour réassurer et repenser le positionnement du surveillant vis-à-vis des personnes détenues, mais aussi dans l'organisation administrative. Ça implique de nouvelles relations avec les personnes détenues, ce qui ne veut pas forcément dire des rapports moins coercitifs. C'est de nouvelles formes de pouvoir qui passent plus par la communication, par des stratégies incitatives. Ça, c'est valorisé via ce qu'on appelle la sécurité dynamique, et c'est quelque chose qui est assez investi par l'administration pénitentiaire ces dernières années.
Alors, même si je ferai juste une petite nuance, parce que je trouve que le module respect, il est intéressant à analyser au regard justement de la place du surveillant, parce que alors il y a une autre expérimentation qu'on appelle au sein des services d'administration pénitentiaire le surveillant acteur. Bon, ça peut paraître un peu surprenant comme expression. Acteur incontournable d'une détention sécurisée, c'est l'intitulé global. Et où on voit bien que toute la réflexion du positionnement du surveillant est réfléchie du point de vue du surveillant. Alors que dans le module respect, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on s'intéresse à la vie collective et la communauté des personnes détenues. Et on voit comment le personnel de surveillance interagit avec la vie des personnes détenues et comment ils se positionnent dans la manière de réguler la vie au sein du bâtiment d'hébergement. Donc c'est un peu deux approches différentes. Et en ce sens, je trouve que le module respect est intéressant. Et notamment, il y a quelques organisations professionnelles, des organisations syndicales de personnel de surveillance qui rejettent le module respect et qui privilégient le surveillant acteur en disant « Oui, mais module respect, en gros, on s'occupe un peu trop de la personne détenue. » Ce qui est important, c'est de savoir comment le surveillant se situe par rapport à tout ça. Donc c'est une nuance qui me paraît intéressante.
Merci. Vous voyez que la controverse aboutit aussi à des points de convergence et à même des points d'avancée communes. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient intervenir? Il nous reste à peu près un quart d'heure. Nous avons le temps de prendre des interventions, des témoignages, des questions ou toute forme de... Alors,
j'ai pu comprendre qu'il y a un gros problème avec les jeunes surveillants qui arrivent aux surveillants parce qu'ils ont échoué aux autres modules de la fonction publique et qu'il y avait eu un fort problème de solution dans les premières années. Est-ce que...
On vous apporte un micro, mais sinon je reformulerai pour ceux qui sont au fond. Alors, il faut appuyer sur le bouton. Alors, monsieur explique qu'il a cru comprendre qu'il y a un fort taux de démission chez les jeunes surveillants qui arrivent là parce qu'ils ont échoué à tous les autres concours de recrutement et que c'est une voie de garage qui leur est proposée et qu'ils ne l'investissent pas, c'est ça? Alors, le module respect pourrait-il... je reformule pour les personnes du fond, pourrait-il contribuer à mieux intégrer ces jeunes surveillants qui peinent prendre leurs tâches au sérieux et à s'y investir?
Bon, il y a beaucoup de questions dans votre question, en fait. La difficulté de recrutement de l'administration pénitentiaire, elle n'est pas nouvelle. Alors, ça dépend aussi de la prospérité économique du pays. Hein. Quand le taux de chômage est très élevé, on a plus facilement des candidats que lorsque ce n'est pas le cas. Actuellement, on a quelques difficultés à recruter, mais le taux de chômage est bas. On a quelques raisons de s'en réjouir, mais nous, un peu moins. Il y a toujours eu des recrutements massifs, hein, parce qu'on a quand même augmenté le nombre d'établissements pénitentiaires et le nombre d'agents. Tout ce qu'on pourra faire, en tout cas pour rendre le métier plus intéressant, moins pénible, moins difficile, nous permettra de fidéliser un peu plus nos agents, c'est évident. Même si ça restera toujours un métier assez complexe. Nous avons des démissions plus ces dernières années, un peu plus qu'avant, mais c'est un phénomène qui touche absolument tous les corps de la fonction publique, hein, les policiers, les gendarmes, la santé. La santé est complètement sinistrée.
Et même l'éducation nationale.
Et même l'éducation nationale, je n'avais pas les chiffres de l'éducation nationale, mais c'est un phénomène qui, de fond, d'une certaine manière. Alors, le lien avec la crise sanitaire, je ne sais pas, mais en tout cas, après la crise sanitaire, il y a eu une tendance assez lourde dans ce sens. Après, l'administration pénitentiaire a toujours fonctionné avec des forts renouvellements. J'ai dirigé la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pendant 4 ans. J'avais 200 nouveaux surveillants chaque année et 200 départs. Donc j'ai vu arriver 800 nouveaux personnels de surveillance. Je n'ai pas peur de la jeunesse. Je n'ai pas peur de l'inexpérience. Il y a une énergie, une envie de bien faire aussi qui est extraordinaire chez les jeunes professionnels. Et puis il y a une diversification aujourd'hui des métiers pénitentiaires. Les départs s'expliquent aussi par le fait que nous avons des agents bien formés. Aujourd'hui, nous formons des agents à être armés sur la voie publique et à faire des escortes à l'extérieur pour les exécutions judiciaires notamment. Et ça intéresse énormément les polices municipales qui nous pillent. Une fois qu'on a bien recruté nos agents, qu'on les a bien formés, les polices municipales leur offrent des ponts d'or pour venir travailler dans leur service pour 0 euro de frais de formation. Donc voilà la réalité, c'est une réalité à laquelle on est confronté. Mais l'effort de recrutement et la qualité du recrutement est un enjeu majeur pour nous. Mais je ne note pas en tout cas de désaffection ou de fonctionnement dégradé parce qu'on recrute des jeunes agents. C'est pas vraiment le cas.
Valérie Icard, sur cette question des surveillants, des jeunes surveillants, vous avez observé des choses?
Non, j'ai juste un souvenir, mais alors là, c'est une anecdote sur le terrain où justement il y avait des surveillants stagiaires et il fallait pas les mettre au module de respect parce que c'était trop le Club Med et que ça représentait pas la vraie prison. Donc,
voilà. Oui, mais alors si c'est l'image du module de respect dans l'administration pénitentiaire, monsieur le directeur, c'est pas bon pour vous, quand même.
Alors bon, on ne fera pas venir tous les surveillants dans un régime comme ça. On trouvera par contre toujours des surveillants qui préfèrent fonctionner dans un régime plus libéral que coercitif. Donc moi je trouve que tout le monde doit trouver son chaussure à son pied, hein, et c'est la chance d'avoir des diversifications de régimes, de fonctionnement. Après cette critique du Club Méditerranée, enfin, c'est une expression qui est vraiment rentrée pour les plus anciens dans le langage courant. C'est un reproche qui est souvent fait et qui renvoie à ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'aspect assez contraignant et disciplinaire en fait, du fonctionnement des établissements pénitentiaires français. Bon, on a quand même des voisins européens qui sont beaucoup plus libéraux. J'ai visité des établissements, j'ai pas eu la chance d'aller en Espagne, mais j'ai été en Allemagne. Une maison d'arrêt en Allemagne, ça ressemble à un établissement pénitentiaire français pour peine, en fait. C'est-à-dire que les détenus circulent librement, prennent leur repas ensemble. Et il y a une décontraction qu'on ne trouve pas du tout dans les établissements pénitentiaires français. Donc on est un pays assez sécuritaire. On a une administration pénitentiaire assez sécuritaire aussi. Mais je pense qu'un une petite dose de libéralisation serait la bienvenue.
À condition que ce ne soit pas simplement la soupape de sûreté.
Mais que... Qu'il y ait un projet. Il faut qu'il y ait un projet, il faut que ce soit porté, il faut que ce soit construit.
Il faut que ça contribue à faire progresser l'ensemble du système. Vous souhaitez réintervenir? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes?
Oui, question. Oui, bonjour.
Madame, bonjour.
Je voudrais juste rappeler, la détention, c'est supposé aussi préparer à une réinsertion. Est-ce qu'on a pu noter si les détenus qui passent par le module respect se réinsèrent plus facilement, ont moins de problèmes voilà. Est-ce qu'il y a une conclusion ou une remarque là-dessus?
Alors, je vais même vous donner des chiffres. Alors, je sais ce que va dire Valérie Icard. Je pense qu'elle va revenir.
C'est une corrélation, elle va revenir, une causalité.
Elle va revenir à ce qu'elle a dit tout à l'heure sur. Ben, évidemment, vous les sélectionnez. Donc, forcément, ça donne des bons résultats. Mais sur les 278 personnes qui ont été intégrées dans ce régime respect à Rion, 11 ont obtenu une libération conditionnelle, 40 sont sortis en aménagement de peine sous surveillance électronique, 14 en semi-liberté ou en placement extérieur. Et puis il y en a 99 simplement qui sont sortis en fin de peine, donc sans aménagement de peine, et 66 qui ont été exclus du dispositif. Voilà, après je peux vous redonner le détail de pourquoi ils sont sortis, les 66, mais donc vous voyez, il y a quand même sur ce volet-là, il y a un travail important de fond du service pénitentiaire d'insertion et de probation sur la préparation à la sortie.
On alors, vous entend pas mal.
On n'a pas fait d'études sur le long terme. C'est ce qui manque un petit peu, en fait. C'est cette capacité à avoir à plus 5 ans, plus 6 ans, plus 7 ans, ce que sont devenues les personnes détenues en question.
Oui. Et Valérie Kahn.
Mon objection a déjà été formulée par.
Donc on n'a pas de suivi de cohorte.
Mais il y en a une autre, quand même. C'est aussi tout le jeu de prophétie autoréalisatrice. Je pense que c'est très important et on l'a noté dans des études précédentes sur les régimes différenciés. Plus on valorise certaines personnes et moins on valorise d'autres personnes, plus il y a un cercle vicieux qui peut jouer. Et notamment, on va dire, dans les modules de respect, il y a beaucoup moins d'incidents. En revanche, dans les bâtiments non-respect, il y a beaucoup de violences verbales et physiques. Et en fait, c'est tout un cercle vicieux qui est instauré par aussi la mise en place de ce régime de respect par les mauvaises représentations qui sont associées au personnel de surveillance aussi, parce que des fois on dit ce sont les mauvais personnels de surveillance qui sont dans ces bâtiments-là, aux personnes détenues, et donc ça favorise...
On dit que c'est les mauvais, pas dans le module respect, dans le
oui, 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 voilà, c'est cette dichotomie qui peut être... Donc je pense qu'au-delà de ce processus de sélection, il faut aussi être très attentif à ce que ça nourrit par le système même.
Alors, il nous reste que quelques minutes, puisque les activités s'enchaînent d'une manière très... Ah, mais il y a une demande de prise de parole. Avant que nous passions à la conclusion.
Très rapidement. J'ai beaucoup travaillé à titre personnel sur les enquêtes publiques, débats publics, concertations et autres. Je constate qu'aujourd'hui, il y a une réticence terrible des citoyens qui n'ont plus confiance dans les institutions. Et malgré la mise en place de sortes d'intermédiaires garants de la bonne qualité du débat public, de l'enquête, etc. Et une concertation dans un lieu qui nécessite tant d'autorité comme les prisons, est-ce que vous imaginez des personnes qui pourraient être garants que les choses se font correctement? Est-ce qu'on a des personnes qui peuvent faire? Ou alors est-ce qu'il y a le même état d'esprit que dans la vie de tous les jours des citoyens qui fait que de toute façon... les détenus n'ont pas du tout confiance dans l'administration.
C'est presque un sujet à lui tout seul.
Oui. Hein.
Je ne sais pas comment je peux répondre simplement. C'est vrai, je rejoins là-dessus Valérie Icard sur l'appréciation de ce qu'on appelle les articles 29, parce que c'est l'article 29 de la loi pénitentiaire qui prévoit des temps d'échange qui les a institués. Ça veut, ils existaient avant, de façon informelle, mais maintenant ils sont posés, il y a un cadre. Quelquefois, on a le droit d'être déçu. Des sujets qu'on aborde, et en premier lieu, les personnes détenues elles-mêmes, elles ont le droit d'être déçues, parce qu'on va parler à la marge un peu des cantines, un peu de ceci, un peu de cela, on ne va pas parler du fond des problèmes, du fond du sens de l'enfermement, de l'organisation de la détention, de l'organisation des mouvements, de ceci, de cela, parce que c'est la limite pour l'avoir pratiqué. On ne peut pas répondre à toutes les demandes des personnes détenues. Enfin, on est dans un système tellement contraint que c'est difficile. Et le risque, c'est que ce dialogue, finalement, il tourne un peu à vide. Parce qu'en gros, au bout d'un moment, personne détenue...
Il ne porte que sur des détails.
Voilà, ou que sur des détails, effectivement.
Merci, nous allons essayer de conclure. Je vais donner la parole à nos deux invités pour cela. Peut-être. Ah. Il y avait encore une dernière question, autant pour moi, je n'avais pas vu. Donc deux encore. Alors on va donner la parole successivement aux deux personnes qui la demandent.
Merci de m'accorder la parole. Moi je m'appelle Germain Rukuki, je suis un ex-prisonnier. J'ai passé 4 ans en détention arbitraire au Burundi. Je ne sais pas comment les établissements pénitentiaires ici sont organisés. Peut-être que c'est différent des nôtres, de l'autre côté. Monsieur, il a parlé de peut-être de problèmes. Ce qui est plus dangereux, si c'est le silence ou si on n'accorde pas la parole aux détenus. Mais ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Des fois, on peut ne pas dire, on peut garder silence pour éviter le pire, pour éviter la répression. Oui, il m'est arrivé de garder le silence alors que j'avais des problèmes, de marcher avec des souffrances au fond de mon cœur. Et dans ce cas-là, il est vrai, ici, peut-être, certains, ils ont la liberté peut-être de présenter leur doléance et qu'ils peuvent recevoir un retour favorable, c'est possible. Mais je ne sais pas, les prisons peut-être sont même les mêmes partout, on ne sait pas encore. Et autre chose, j'aimerais lui demander, est-ce que réellement la prison est nécessaire ?
Alors c'est un autre débat, enfin non, oui, oui. C'est pas complètement un autre débat, mais... On pourra pas répondre à votre question d'une manière exhaustive ce soir dans la minute qui nous reste de ce débat. Mais je donnerai quand même la parole là-dessus à nos deux interlocuteurs. Est-ce qu'il y a une autre personne qui...
Pourquoi je pose cette question ? En fait, la société telle qu'est organisée, il peut y avoir... Ce n'est pas toujours... des gens qu'on peut taxer de criminels, la cause peut être autre chose, l'organisation d'un pays, celui qui est chargé de le gestionnaire, il peut être à la cause des crimes, cela peut pousser les gens à se comporter d'une autre manière, à commettre des crimes parce que le responsable n'a pas su répondre aux besoins du peuple. Voilà. Alors, dans ce cas-là, entre les deux, qui mérite la prison ? Est-ce que c'est celui qui a commis le crime ou c'est le gestionnaire ? Je vous remercie.
Merci de votre interrogation et témoignage. Il y a une dernière interpellation et puis je donnerai la parole pour la conclusion à nos deux invités.
Bonjour, merci de me donner la parole. Je voulais rebondir sur ce que disait Valérie Carr en parlant de deux catégories de détenus. Effectivement, il y a des bonnes choses pour le respecto, mais ça crée aussi de la jalousie entre détenus. En cours de promenade, vous aviez d'un côté les punis, puisqu'on les appelle comme ça, ceux qui sont pas respecto, on les appelle les punis. Certains ont purgé, je prends un exemple pour un téléphone, les 15 jours de mitard, et ça faisait 3 mois qu'ils étaient chez les punis, ils attendaient une place. Moi, je revenais de transfert, j'ai passé 4 mois avant d'attendre une place. Mais c'est vrai que ça crée une... Ça crée deux catégories de détenus, les bons et les mauvais.
Excusez-moi, pour que nous comprenions bien, vous avez vous-même été dans une situation où vous avez vécu cette double appartenance entre ceux qui sont dans le module respect et les autres ?
Oui, oui, j'ai connu les deux. J'ai attendu 3 mois pour pouvoir bénéficier du régime respecto.
Oui.
Et quand je disais que ça crée deux catégories de détenus, vous prenez les promenades au régime puni, vous les avez à 13h30, à 14h30 vous êtes en cellule et vous ressortez que le lendemain à 9h. Aucune activité, très peu. En priorité, c'est les détenus qui sont au respecto. Pour les UVF, c'est pareil. Quand vous vous inscrivez pour une unité de vie familiale, en étant chez les punis, vous avez très peu de chances d'en avoir. Alors qu'au respecto, vous avez un cycle comme ça qui tourne. Donc voilà, ça crée effectivement, comme dit Valérie Eckart, deux catégories de détenus. Et je ne pense pas que le but du respecto, ça soit aussi de creuser l'écart entre ces deux catégories de détenus.
Donc, votre avis, pour conclure votre intervention, vous pensez que ce module respect doit être aboli ou systématisé ?
Alors, je ne dirais pas aboli, mais une fois que la personne a purgé ses 15 jours de mitard, par exemple, et donc il se retrouve chez les punis pour de bonnes raisons, pourquoi le laisser 3-4 mois en liste d'attente avant de remonter ? Donc, ça crée de la colère, ça crée du ressentiment. Et même entre les détenus, moi j'ai vu pas mal de problèmes entre les détenus au respecto et les détenus punis.
Merci beaucoup de votre témoignage. Merci de votre prise de parole. Alors, je vais vous demander de conclure rapidement l'un et l'autre. On peut néanmoins prendre 2-3 minutes, mais peut-être en allant au-delà du module respect. Nous avons parlé de ce module respect parce que c'est une initiative qui se veut améliorer les conditions d'incarcération et la vie dans les établissements pénitentiaires. Peut-être nous dire à quelles conditions, justement, on peut améliorer cela. Quels seraient les points de vigilance pour que cette amélioration ne bascule pas dans un certain nombre de dérives, dont certaines ont pu être pointées aussi pendant la discussion. Voilà, je ne sais pas lequel d'entre vous veut conclure le premier.
Allez-y.
Soyez très libre.
Bon, je vais faire mon rebelle, en fait, et je ne vais pas répondre du tout à votre question.
Alors, ne répondez pas.
J'aimerais conclure simplement avec une anecdote, parce que le thème, un peu, c'était quand même... le régime respect, c'est une façon de réduire les personnes détenues au silence, d'introduire un nouvel ordre carcéral, un nouvel ordre pénitentiaire et de réduire un peu les personnes détenues au silence. Je voudrais raconter une anecdote, ça s'est passé en 1988 aux prisons de Lyon. Il faut imaginer que ça faisait 5 ans qu'il y avait des télévisions en cellule, tout juste, puisqu'elles ont été introduites après l'élection de François Mitterrand et Robert Van Inter comme garde des Sceaux à l'époque. Et les personnes détenues en 1988 aux prisons de Lyon, elles ont posé leur télé devant leur cellule en disant « Vous voulez nous réduire au silence, vous voulez nous anesthésier avec la télévision, on les pose devant les cellules et maintenant on va parler. » Et je trouvais que c'était, à l'époque, un très beau geste.
D'accord, donc vous avez quand même un peu répondu à la question en disant que, au fond, la parole... Et la possibilité de cette parole, telle qu'elle existe en tout cas dans le module respect, vous paraît un des enjeux majeurs de l'évolution du système pénitentiaire.
Oui, et puis voilà, avant de s'interroger, effectivement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, avant de s'interroger sur la manière dont le régime de respect peut être analysé comme quelque chose qui biaiserait un peu le fonctionnement général des établissements pénitentiaires en créant une caste de privilégiés, je n'oublie pas effectivement qu'il y a d'autres raisons de se préoccuper de la situation des personnes détenues, et notamment l'inactivité en cellule d'une majorité de personnes détenues en maison d'arrêt, qui sont effectivement allongées dans leur cellule et qui regardent la télé du matin au soir.
Merci madame. Merci pour l'annonce. Et comme ça commence dans 5 minutes, ça nous laisse le temps de donner la parole à Valérie Icard pour sa conclusion. Comment vous voyez, à travers le module respect ou pas, peu importe, l'évolution d'une situation vers...
D'abord,
autre chose.
J'ai oublié de remercier au tout début, mais je tiens à remercier toute l'équipe de Concertina pour ces rencontres. Et je tiens à vous remercier aussi pour là. Je conclurai en rebondissant sur ce que disait le monsieur, en étant très attentif. Je pense qu'il est essentiel, en pensant l'enfermement et en étant soit dans l'administration pénitentiaire, soit chercheur, soit intervenant, penser aux marges. On est déjà sur des personnes qui sont à la marge, et ça sera la thématique de l'année prochaine, je crois. Et là, avec ces modules de respect, il me semble qu'on recrée des marges, et il me semble que ce n'est pas la mission de la prise en charge au sein des établissements pénitentiaires. Donc, plus réfléchir à l'inclusion et pas à la... séparation entre les personnes au sein des établissements. Voilà.
Ok, merci pour ces conclusions. Merci à vous deux.
Merci.
Je crois qu'on a eu une discussion authentique et forte. On a eu des engagements. Vous êtes engagé à faire des modules respect dans tous les établissements pénitentiaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a eu des propositions aussi de la part de Valérie. C'était une controverse positive, je trouve, et qui, à travers le cas particulier du module respect, nous donne à penser sur la complexité des situations que nous avons à affronter et sur l'effort d'intelligence collective, d'intelligence et de lucidité collective que nous avons à mettre en œuvre face à ces problèmes. Merci à vous, et puis alors, vous êtes attendus dans d'autres activités.
Concertina. Concertina. Concertina.